13h.
Le 12-13. De nouveau sur Radio Cité Genève. Tous les jours, dans le 12-13, la rédaction vous propose des personnalités genevoises qui s'expriment sur la cité. Du lundi au vendredi, retrouvez nos journalistes dans le 12-13.
Lynn Mabillon.
Nous parlerons de changement d'alimentation avec Mathilde Bussy et Brigitte Forand dans quelques instants. Après Juliette Gréco, la cuisine.
Les selles qui faisaient Florès en robe de Dior et sac d'Hermès, rangées dans le musée Grévin du ciné-club et de Sam Levin, regrettent autant joli du poivre et sel et du bigoudi de ne pas avoir appris la cuisine qui retient les petits maris qui se débinent. Les selles qui font Florès en Vison Sport et Mercedes rejoindront au Cinémathèque Musidora et le fils du chèque, mais regretteront pardi au temps du flashback en bigoudi de ne pas avoir appris la cuisine qui retient les petits maris qui se débinent. Les selles qui font joujou en Barouge Vif et Scooby-Doo, à leur retour feront Florès en Cosmoscope ou Vadim Express. Puis viendra le temps mignon du poivre et sel et du mironton. Celles-là auront appris la cuisine qui retient les petits maris qui se débinent. Mais celle qui faisait Florès en robe de Dior et sac d'Hermès, et qui depuis font gémir le corset de fer sous le pull en cachemire, plutôt que de faire des pâtés sur leur carte d'identité, pour retenir l'amant joli qui se débine, vont apprendre dès aujourd'hui la cuisine.
Radio Cité Genève,
92.2 FM.
Midi 4, bonjour à tous les auditeurs qui nous rejoignent à l'instant. Nous continuons notre thème de changement de tradition. La longeole, la saucisse de porc et de fenouil, ou encore le gratin de cardon. Il y a des traditions culinaires qui ne changent pas. Mais notre alimentation, elle, s'est bien modifiée. Deux femmes sont avec moi aujourd'hui, Mathilde Bussy, animatrice de cuisine à Genève, et Brigitte Forand, fondatrice d'Elveg Café. Nous écouterons également Denis Martin, directeur du restaurant du même nom situé à Vevey. Il nous expliquera ce qu'est la cuisine moléculaire, selon lui. Alexandre de Montmolin, chef du service de direction générale de l'agriculture à Genève, il nous parlera du label GRTA. Et pour finir, nous entendrons Louis Champeau, l'un des principaux défenseurs de l'entomophagie en Suisse. Mathilde Bussy et Brigitte Forand, bienvenue à vous deux. Bonjour.
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 Donc Mathilde Bussy, vous vous définissez comme curieuse culinaire.
Oui, je suis d'abord curieuse, curieuse de tout. J'aiguise mes oreilles autant que mes couteaux. J'écoute la radio, je note, j'écris, je fais des recettes presque toute la journée.
C'est donc ça une curieuse culinaire.
Très curieuse.
Oui. Et vous, Brigitte Forand, vous êtes fondatrice du restaurant d'Elveg Café à Genève. C'est un restaurant vegan, c'est bien cela ?
Oui, Elveg Café est un restaurant vegan gourmet. Vegan, c'est-à-dire sans produits animaux. Donc pas de viande, pas de poisson, mais pas également de sous-produits animaux. Et gourmet, car tout est raffiné, tout est beaucoup de saveurs et d'excellente qualité.
Donc ce n'est pas seulement végétarien, mais aussi végétalien.
Voilà, ça va au-delà de végétarien.
Donc pas d'œufs, pas de lait.
Pas de produits laitiers, pas de...
Tout ce qui vient des animaux.
Tout ce qui vient des animaux. Ouais.
Donc notre alimentation se modifie. Avant, on disait qu'un plat principal, il comportait une viande, un féculent et des légumes. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur ce plat principal, Mathilde?
Je pense que quand on va prendre un plat du jour, on le retrouve tel que vous l'avez décrit. Mais si on cuisine pour soi, la meilleure chose, à mon avis, ça serait d'avoir les féculents et les choses lourdes plutôt à midi. Et le soir, rester sur quelque chose de très léger comme un wok, une salade, une soupe avec des laitages. Et puis voilà, toujours garder un petit peu de protéines à chaque repas, qu'elle soit végétale ou animale. Mais le plat que vous avez décrit à midi, on le retrouve, ouais. Oui.
Et pour vous, Brigitte Forand, donc pour vous, un plat principal restauration végane.
Doit-il comporter une viande, un féculent, un légume? Alors je répondrai non, pour deux raisons. La première, c'est que pour avoir une belle assiette équilibrée, nous pouvons tout à fait avoir autant de protéines avec un assortiment de céréales, de légumineuses et de légumes. Et puis la deuxième raison, c'est parce que l'homme n'est pas carnivore, il est omnivore. Et donc, il n'a pas un intestin qui permet de digérer la viande de la même façon que les carnivores. Et donc, à la longue, cela crée des putréfactions qui sont responsables de problèmes de santé.
Mais est-ce que la cuisine végane apporte autant de calories que les êtres humains ont besoin par jour, quotidiennement?
Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, il existe des personnes qui sont en surpoids également végétariens ou végétaliens. Les calories y sont, mais au niveau des protéines, on parle toujours de protéines, or il faut parler d'acides aminés. Et ces acides aminés se retrouvent dans un assortiment justement de légumineuses et de céréales, où là, nous avons les huit acides aminés essentiels, et c'est ça le principal.
Donc le plat principal, deux avis qui divergent un petit peu. Mathilde Bussy, est-ce qu'on fait toujours de la cuisine bourgeoise à l'heure actuelle? Je pense par exemple à la blanquette de veau. Est-ce qu'on fait toujours mijoter longtemps la viande à l'heure actuelle?
Alors, mijoter longtemps la viande, on est obligé, si elle est de qualité, à être cuite longtemps, comme justement les bourguignons, on est vraiment obligé, autrement elle est immangeable. Mais la mode, elle est la cuisine revisitée. On la retrouve, la cuisine bourgeoise, dans par exemple chez les grands chefs, ils ont toujours un plat qui se réfère à leur grand-mère, leur mère, ils aiment le reprendre, mais on retrouve toujours cette base bourgeoise, de la blanquette de veau, du lapin à la moutarde. Enfin, toutes ces choses se retrouvent différemment, plus légères, plus fines, plus élaborées.
Plus élaborées, oui.
On en parlera. La bourgeoise à la maison, oui. Je pense qu'elle est toujours là.
Vous pensez que les gens ont continué à faire cette cuisine bourgeoise?
Mes enfants me la demandent. Hein. De temps en temps, ils veulent une blanquette de veau. Ils veulent la vraie. Celle de...
Quelle est la vraie? Quelle est la différence avec la fausse?
La fausse, elle va avoir peut-être très peu de sauce, très peu de crème. Les choses sont cuites séparément. On va étaler les produits dans l'assiette. On devra les reconstituer mentalement. Donc, on n'aura pas la casserole au milieu de la table. Ça, c'est clair. On aura une disposition sur l'assiette qui, il faudra peut-être vous le dire que c'est une blanquette de veau. Ça va pas se voir du premier coup d'œil. C'est, bon, dans certains restaurants, à part ça, au plat du jour, ça sera comme je la fais moi, j'imagine.
Et au niveau de la cuisine donc végane, est-ce qu'il y a vraiment une demande à Genève? Est-ce que vraiment votre café, Helvec Café, est là pour satisfaire certains Genevois?
Alors écoutez, nous sommes ouverts depuis 2 mois et nous avons été vraiment agréablement surpris parce qu'il existe une demande. Depuis 2 mois, nous avons eu donc des clients qui nous ont clairement dit « on vous attendait », ce qui a été vraiment très satisfaisant. Des clients de tout âge et également une clientèle anglo-saxonne, puisque Genève est quand même une ville assez cosmopolite. Et puis, donc, de tout âge, parce que je vais vous raconter quand même une petite anecdote qui a été très touchante. 3 semaines en arrière, un couple de personnes âgées est arrivé un jour de pluie. Je leur ai ouvert la porte parce qu'il pleuvait, etc. Je leur ai dit, mais tout de suite, je leur dis, c'est un restaurant vegan, donc pas d'animaux, etc. Tous les deux m'ont dit, mais on vous attendait, ça fait des années qu'on attendait un restaurant vegan à Genève. J'ai dit, ah bon? Tous les deux, ce petit couple charmant avait 86 ans, 58 ans qu'ils étaient véganes, 60 ans mariés. Ça a été un rayon de soleil dans cette journée pluvieuse, c'était juste magnifique.
Donc ce n'est pas seulement une tendance?
Non, je pense que c'est un véritable besoin. On nous le dit, on nous l'a dit. Il y a une clientèle anglo-saxonne. Il y a beaucoup de gens qui désirent justement réduire la consommation de viande et réduire la consommation d'animaux d'une façon générale.
Et donc, vous êtes un des seuls restaurants vegan à Genève?
Vegan, le seul, je dirais, de Suisse romande.
De Suisse romande, vraiment?
Oui. Vegan, oui.
D'accord. Et l'offre végétarienne, on a l'impression des fois qu'en France, elle est plus étoffée ou même diversifié qu'en Suisse. Vous en pensez quoi?
Alors, la France a une tradition culinaire du terroir, avec des viandes, des laitages et des choses un petit peu bizarres et très cruelles, comme le foie gras, les cuisses de poulet, les cuisses de grenouille, excusez-moi, les choses comme ça. Donc, en France, il est très difficile d'être végétarien. Il existe une véritable végéphobie, à tel point que dernièrement, une loi a été instaurée où dans les restaurants de collectivités, comme les écoles, comme les hôpitaux, les prisons, on leur oblige à mettre systématiquement la viande comme apport de protéines, ce qui est une véritable aberration au niveau de la santé et une véritable aberration économiquement parlant.
Mathilde Bussy, je vous ai vu un petit peu grimacer qu'on a entendu foie gras.
Oui, c'est-à-dire que moi, pour moi, le foie gras, c'est un de mes piliers. J'en fais depuis 20 ans, depuis que je suis allée chez Girardet, dans les années même plus 20 ans. Et en plus, j'ai appris que la molécule grasse du canard, donc du foie gras, est identique à celle de l'huile d'olive. Elle est bonne pour la santé. On peut la consommer, même dans les régimes. Je ne sais pas qu'il faut consommer du gras, mais ce gras est bon. Donc moi, j'adore le foie gras. Je ne peux pas concevoir de
supprimer
de faire
l'impasse. De votre...
Non.
Bien sûr.
Justement, j'ai un atelier qui va arriver avec beaucoup d'inscriptions. Je vais devoir en rajouter un. Je pense que... Bon, ça c'est pour le foie gras. Et puis, c'est vrai qu'on entend vraiment tout et son contraire en ce moment. Moi, j'ai envie de réduire ma consommation de viande. Pourtant, j'étais dans une famille où c'était la viande vraiment très fort. Et quand j'ai entendu les dégâts que ça provoquait, combien coûtait en eau un kilo de bœuf, c'est vrai que ça fait peur. Et puis, en même temps, toutes ces toxines à éliminer. Donc, réduire la viande, d'accord. À part ça...
Mais pas réduire les traditions.
C'est pas une question de tradition, c'est une question de goût, de plaisir, pour moi.
Oui, Brigitte Fourant.
Je dirais que le plaisir n'explique pas tout et on ne peut pas tout faire par plaisir. La moralité est là. D'ailleurs, pour en revenir au niveau du foie gras, je rappelle que quand même en Suisse, il est interdit de produire du foie gras.
C'est vrai. Hein,
donc c'est complètement interdit. Oui, bon, oui. Par contre, il existe encore quelques magasins qui en vendent.
On a le droit de l'importer.
Hein. On a le droit de l'importer, mais enfin, il y a des grands magasins qui ne l'importent pas. Par choix. Donc,
la loi date de 1978.
Hein. Absolument. Mmh. Donc, par contre, il est interdit d'en produire en Suisse, dans d'autres pays également. En Californie, le foie gras a été interdit également. Voilà, donc parce que le foie gras est quand même le summum de la cruauté à l'heure actuelle.
C'est pourtant une tradition à Noël de manger du foie gras, non ?
Oui, mais les traditions, vous saviez, il y a des traditions ancestrales qui sont amorales.
Oui. Et voilà. Vous pensez qu'on pourrait changer justement ces traditions ?
Il existe du pâté de joie, pâté végétalien, qui peut remplacer le foie gras, qui est délicieux et qui permet de passer un bon moment.
Je voudrais bien goûter alors. Je voudrais bien goûter ça.
On continue la discussion après. Richard.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Don't you come back no more.
I didn't understand
you. Don't you come back no more.
You can't mean that.
And don't you come back.
Oh, now, baby.
Radio Cité Genève sur Internet.
www.radiocité.ch
La soupe baloise, la soupe à la base de farine, les curly, Hors frontières, on retrouvera peut-être la tartiflette, la paella. Certaines traditions culinaires ne se modifient pas. Par contre, notre alimentation change, évolue ou pour certains, régresse. Mathilde Bussy, curieuse culinaire, vous nous l'avez expliqué juste en début d'émission. Et Brigitte Foran, fondatrice d'Élevec Café, donc un restaurant vegan. Vous êtes avec moi dans ce 12-13 pour discuter des changements culinaires. Et dans ces changements, on a vu arriver la nouvelle cuisine. Donc cette cuisine qui dresse justement les plats. C'est arrivé il y a combien de temps ? Une vingtaine d'années, non ?
Alors pour moi, Mathilde. Il y a plus de 40 ans. Elle a été inventée par... le nom a été donné par Goemio, donc les deux personnes, dans les années 70 déjà, appuyé par des grands chefs, Fernand Point, Raymond Oliver, la télévision française. Bon, c'est très français. Les années 80, Girardet. C'est lui qui a commencé vraiment à nous faire connaître, à nous faire aimer, à nous faire adorer et attendre d'avoir une date chez lui. Paul Bocuse, alors lui aussi c'est... des années 60-70, Michel Guérard, voilà. C'était surtout la reconnaissance des chefs. Je pense qu'ils ont pu se mettre en avant à partir de cette nouvelle cuisine. Et c'est une cuisine, pour moi, qui est, par rapport à l'ancienne, épurée, allégée et diététique.
Oui, mais Madame Bussy, par exemple, pour les légumes, ils sont moins cuits.
Alors voilà. Mmh. Oui, effectivement, ils ont édicté les 10 commandements de la nouvelle cuisine, je vais vous dire rapidement. Le premier, tu ne cuiras pas trop. Tu utiliseras des produits frais et de qualité, tu allégeras ta carte, tu ne seras pas trop moderniste, tu essayeras les nouvelles techniques, tu éviteras marinade, faisandage et fermentation, tu élimineras les sauces riches, tu étudieras la diététique, tu ne truqueras pas la présentation, donc là on revient dans l'assiette, la manière présentée, et tu seras inventif, voilà les 10.
Et que pensez-vous de cette nouvelle cuisine ? Est-ce qu'elle est encore d'actualité aujourd'hui ? Est-ce qu'on est encore dans cette nouvelle cuisine ou c'est en train de tout se chambouler au niveau culinaire ?
Ce qu'on voit à la télévision, c'est absolument ça, même encore plus, parce que là, on fait des tableaux, on fait de l'art, on fait de la décoration, on fait plein de choses qui sont même impossibles pratiquement à reproduire à la maison ou même quand on a des amis, c'est un casse-tête. Donc ça évolue, on prend point par point des petites choses, on améliore et de toute façon, on allège, ça c'est sûr.
Et au niveau de la cuisine végane, où en est-elle aujourd'hui, Brigitte ?
Eh bien, nous sommes donc tout à fait dans la tendance également de la santé, puisque tout est quand même allégé, de très bonne qualité, avec beaucoup de créativité également autour des épices. On utilise beaucoup d'ingrédients.
Est-ce que vous avez des exemples d'épices qui sont utilisées dans la cuisine végane ?
Beaucoup de condiments, par exemple le gomasio, le tamari, le miso, puis tous les épices méditerranéennes et du monde entier. Et puis je dirais aussi que justement avec l'alimentation végane, on privilégie la santé avant tout, et c'est une véritable révolution pacifique finalement dans la cuisine. C'est une révolution pacifique parce que c'est celle qui ne fait aucune victime.
Elle ne fait aucune victime, mais elle apporte quoi à notre corps si elle est vraiment meilleure ?
Beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie.
Donc plus de pêche, en
plus fait. De santé. Plus moins de santé. Problèmes de ouais. santé et plus de vitalité d'une façon générale.
Ouais. Ouais.
Et comment ? Et en fait, elle vient de... Depuis combien de temps, en fait, elle existe, cette cuisine végane ? Parce que c'est en tendance en ce moment en Suisse, mais est-ce que ça fait peut-être pas mal d'années qu'elle existe ailleurs ?
Alors, de tout temps, et dans le monde entier, puisque de toute façon, il existe des centaines de millions de personnes sur Terre qui sont véganes, ne serait-ce qu'en Inde. Je vous rappelle aussi que, par exemple, en Angleterre, 10% de la population est végétarienne. À Londres, vous avez plus de 170 restaurants végétariens. En Allemagne, 6% de la population est végétarienne, ce qui représente 6 ou 7 millions d'habitants. Et puis d'une façon générale, donc à travers les siècles, il y a toujours eu beaucoup de végétariens. Dans l'Antiquité également, puisque Hippocrate prônait également l'alimentation végétarienne.
Donc ça fait très longtemps.
Depuis très longtemps.
Ouais. Et en fait, les plats se modernisent, Madame Bussy. Est-ce que vous avez peut-être, vous qui donnez des cours de cuisine, un exemple de plat qui se faisait peut-être pas forcément avant?
Dans ma cuisine, qui se faisait pas avant, ça va, je n'ai pas vraiment d'exemple, je suis navrée. Maintenant, la modernisation, elle se fait surtout quand on a les ingrédients devant soi et on essaye de les mélanger différemment, peut-être, oui. On fait des associations différentes.
On prend pas des aliments différents?
Des aliments différents, moi, ce que j'aime trouver, moi, dans les nouveautés, c'est plutôt des baies qui existent depuis longtemps, qui sont à côté de nous et qu'on peut aller chercher. On les cueille directement sur l'arbre. Dernièrement, j'ai mis au vinaigre des petites baies du cornus mast, donc c'est un cornoulier, qui donne une petite drupe, c'est-à-dire c'est comme une cerise, mais allongée, acidulée, excellente, qui fait un condiment parfait. Donc voilà, moi, je suis plutôt à la recherche des petites choses comme ça. C'est nouveau pour moi, mais en fait, c'était à côté de moi depuis longtemps.
Ouais. Oui, madame.
En cuisine végane, le modernisme, c'est aussi le raw food. Le raw food, c'est une cuisine crue, anglo-saxon, enfin qui nous vient des pays anglo-saxons. Donc là, effectivement, les aliments sont crus, ce qui ne veut pas dire froid, d'ailleurs, complètement froid, parce que cru, ça veut dire en dessous de 42 degrés. Donc les enzymes ne sont pas détruites. Mm-hmm. Cela permet une digestion maximum de tout ce qui est vitamines et minéraux.
Vous avez un exemple de plat?
Dans le raw food, il y en a une multitude. Ben, il y a des pâtes, la pizza, raw food. C'est quelque chose toujours de très gourmet, c'est-à-dire les présentations sont magnifiques, les saveurs sont vraiment très, très fortes, délicieuses. C'est vraiment une cuisine gourmet. C'est une niche dans la cuisine végane, mais toujours très gourmet.
En fait, vous l'aviez dit avant, les deux d'ailleurs, qu'on a beaucoup d'épices, mais on consomme beaucoup trop de sel, non?
Mm-hmm.
Vous êtes d'accord,
oui.
Madame Bussier?
Oui, effectivement, quand on voit ce que l'OMS nous recommande et ce qu'on consomme, je crois que c'est carrément trois fois. Et voilà, 5 grammes de sel par jour recommandé, et nous, on consomme 15 grammes, ça, trois fois plus. Et il y a pas mal de choses pour au moins diminuer la quantité. Moi, je mets du citron, bon, j'adore ça, le vinaigre. Et le céleri aussi qui donne de la sapidité, hein, puisque c'est ça ce qu'on recherche. Et donc, ce qui se passe, c'est que sur la langue, l'acide remplace la sensation de sel. Voilà, alors tout ce qui est acide déjà. Après, on peut mettre des graines toastées. On peut les toaster soit séparément à sec, soit dans l'huile, dans ce qu'on va cuire. Du parmesan de noisette qu'on trouve dans les magasins bio, qu'on peut rajouter par-dessus la place du fromage. Le gingembre, vous avez dit le miso, les herbes fraîches, alors ça en quantité. Et le umami, la cinquième saveur. Donc ce sont les aliments eux-mêmes qui ont l'air d'être salés, comme la tomate, le champignon, le fromage, la viande, bon, les anchois, l'ail. Il n'y a pas grand-chose dans le sucré, par contre, mais bon, puisqu'on parle du sel.
Et pour vous, Madame Foran?
Oui, alors effectivement, le sel est un véritable problème qui crée un problème de santé, hein, en particulier avec l'hypertension, à cause de toutes ces plaques qui sont préparées. Pour réduire le sel, chez Helvec Café, vous avez sur chaque table du gomasio. Alors le gomasio, c'est un mélange de sel et de graines de sésame, mais dans la proportion 10% de sel et 90% de sésame. Donc bien sûr, ça permet de limiter sa consommation de sel. Et puis surtout, le sésame est une petite graine donc, qui est très bon pour le cerveau. Voilà, donc c'est bon pour la santé.
Oui, j'utilise aussi beaucoup,
oui.
Même dans les yaourts.
Ah, tout à fait, c'est délicieux.
Le sel, on le retrouve aussi beaucoup dans les plats tout préparés. On en discute dans quelques instants après Coldplay.
Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. We live in a beautiful world.
12h-13h,
le 12-13.
Lynn Mabillon.
Deux genevoises autour de ma table afin de parler de changements culinaires. Brigitte Foran, fondatrice d'Elvec Café, et Mathilde Bussy, animatrice de cours de cuisine. Nous avons abordé les thèmes de la cuisine d'aujourd'hui et dans cette cuisine, il y a les plats déjà préparés. Des plats qui sont assez mauvais pour la santé, Madame Foran ?
Oui, effectivement, bon, trop riche en sel, trop riche en acide gras saturé d'une façon générale, et puis bon, en plus souvent avec de l'animal dedans. Alors souvent, enfin, il y a eu pas mal de scandales alimentaires aussi, on ne sait jamais quel animal.
Viande de cheval,
voilà.
Viande de bœuf.
Donc de toute façon, l'important c'est d'avoir du plaisir en mangeant, mais en ne portant aucun préjudice à aucun animal. Pour nous, élever le café, c'est notre créneau, c'est-à-dire apporter beaucoup de plaisir, mais sans cruauté animale.
Et pour vous, Madame Bussy, qui donnez des cours de cuisine, oui. Est-ce que vous pensez que les gens savent encore cuisiner ? Parce que si ces plats tout prêts marchent bien, c'est parce que les gens, ils en ont marre de cuisiner, non ?
Marre, je ne sais pas, mais ils n'ont pas le temps.
Fatigués.
Et moi, ce que j'aime, c'est justement simplifier au maximum ce que je leur donne à faire, ou les idées que je leur donne.
Vous avez un exemple ?
Et c'est ce qu'ils aiment. Un exemple, c'est justement prendre l'aliment et presque le manger dans les 10 minutes qui suivent. C'est pas moi comme quelque chose qui a été juste fariné, passé à la poêle. Bon, ça c'est pour du cuit, mais le cru c'est encore plus rapide. Pour revenir au plat pré-cuisiné, ce que j'ai du mal à accepter, c'est qu'on trouve du maïs partout et que c'est très glycémiant. Alors ça fait monter, ça fait un pic de glycémie et ça nous fait faire de la graisse. Et ça, c'est mauvais. Et le maïs, le sucre, le sel, il y en a plein pour qu'on trouve ça bon. Et en plus, c'est mou. Et tout ce qui est mou, c'est pas bien pour notre façon de manger, parce que plus ça croque, plus on a un message qui passe au cerveau. Tiens, tu es en train de manger, voilà, tu vas prendre ton temps 20 minutes, après je te dirai, t'as plus faim. Donc, quand c'est mou, on ingurgite beaucoup plus vite et on n'a pas ce sentiment de satiété assez rapidement et on mange plus. Alors c'est le problème des plats pré-cuisinés. Voilà. En gros, quoi.
J'ajouterais également qu'effectivement, avec ces plats tout préparés, on est instrumentalisé par la publicité. Et donc, les gens, finalement, ne choisissent plus vraiment ce qui leur fait du bien, mais plutôt ce qu'on leur fait imaginer, qui n'est pas forcément la réalité.
Ils se remplissent.
Voilà, ils se remplissent.
Mmh. Oui, mais qu'on a fait toute une journée de travail, qu'on doit encore s'occuper de ses enfants, qu'on arrive au soir et qu'on a pas forcément envie de se faire à manger, qu'est-ce qu'on pourrait faire ?
Alors, un wok, c'est-à-dire qu'on a une grande poêle où on met tout, par élément, sans trop surchauffer comme les Asiatiques, parce que là, c'est vraiment un peu violent. Et on peut même le faire à l'eau, le wok. On met de l'eau au fond, et après, on ajoute même les tortellini. Ça, on peut les prendre dans un magasin bio tout près, et on les met dans son wok, et après, on rajoute des petits légumes découpés. Alors, les légumes, on peut les prendre tout près. S'ils sont crus, il n'y a rien, hein, il n'y a rien d'autre dedans. Ça va. Mais les pré-cuisinés, c'est vraiment quand c'est haché, mélangé, salé, déjà avec les sauces. C'est ça, le pré-cuisiné pour moi. Alors là, on peut simplifier la vie. À la Migros, on trouve beaucoup de choses qui sont déjà sous vide, qui sont très bonnes, je pense, en tout cas.
Mais il y a quand même un désir. Il y a quand même certains Genevois qui veulent quand même apprendre à cuisiner.
Alors, ça dépend si on veut apprendre à cuisiner pour se nourrir tous les jours parce que justement, on n'a plus d'idées, ou si c'est pour recevoir.
Quel genre de personnes viennent à vos cours ?
Alors moi, les gens qui viennent à mon cours, déjà l'âge, c'est de 12 ans à je dirais 65-70. Hein. Et souvent, c'est père et fils, mère et fille. C'est assez rigolo, ils s'inscrivent à deux. Un invite l'autre. Des fois, c'est la fille qui invite la mère. Et puis, il se passe des messages. Je sens qu'il y a une communion, il y a quelque chose. C'est très convivial. Alors,
Est-ce qu'il y a des hommes aussi ?
Et il y a des hommes. Ouais. Oui, il y a au moins un homme à chaque fois.
Et au niveau de la cuisine végane, Madame Foran, quel genre de personnes viennent manger végane ? Est-ce que vous avez des carnivores qui viennent manger dans votre restaurant ?
Alors oui, tout à fait, qui veulent simplement avoir quelque chose, innover, avoir quelque chose de différent, se faire du plaisir également. Et puis je rajouterais, c'est une cuisine qui est intercommunautaire, c'est-à-dire qui permet de satisfaire tout le monde, toute religion, toute confession religieuse, toute philosophie, etc. Donc c'est une cuisine, en fait, où les gens n'ont pas de suspicion et n'ont pas de problématiques, d'autant plus qu'il y a aussi beaucoup d'allergies maintenant, des allergies au laitage, etc. Donc là, la cuisine végane, ça permet de satisfaire tout le monde.
Genève a décidé d'aider à la consommation de produits du terroir. La marque garantie Genève Région Terre Avenir a labellisé le 13 novembre dernier 75 restaurants collectifs et privés. Une belle réussite pour l'économie sociale, selon Alexandre de Montmolin, chef de service au sein de la Direction Générale de l'Agriculture.
Bah écoutez, oui, c'est en tout cas un signe très clair de l'intérêt pour la marque de garantie et pour l'agriculture de proximité. Et puis un signe de soutien très clair finalement du consommateur pour les produits locaux et donc pour les entreprises qui en dépendent.
Mais est-ce que c'est plus cher de consommer des produits du terroir ?
Alors, nous avons mené en 2010 et 2011 deux projets pilotes avec la ville de Vernier et la ville de Genève où nous avons examiné tous les achats des cuisiniers et puis nous avons constaté que pour des produits frais et de saison, il n'y avait pas de différence de prix.
La marque GRTA a été créée en 2004, mais ce n'est que cette année que le label a pris autant de notoriété. Comment l'expliquez-vous, monsieur de Montmolin ?
Oui, alors je pondère un petit peu cette affirmation dans la mesure où en 2006, donc la marque a été créée en 2004, comme vous l'avez dit, en 2006 elle avait déjà quand même 25% de notoriété. Ça c'est une étude de marché barométrique que nous menons tous les 4 ans. Et puis on est passé à plus de 40% de taux de notoriété en 2013. La restauration collective finalement donne encore un nouvel élan à cette marque de garantie dans la mesure où les restaurants qui sont labellisés s'engagent à communiquer sur les produits qui sont consommés dans leurs établissements. Donc cette notoriété ne peut aller encore qu'en se développant ces prochaines années.
Les restaurants labellisés s'engagent à proposer au minimum 2 à 3 produits GRTA dans leur offre quotidienne. Comment allez-vous garantir que ce sont vraiment des produits du terroir qu'ils vont proposer ?
Alors ça c'est un élément extrêmement important, c'est que toute cette démarche dépend d'une condition essentielle, c'est la traçabilité des produits. Alors là nous collaborons avec le service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires qui s'est engagé à faire des contrôles in situ, donc auprès des restaurants. Et puis il faut savoir que les cuisiniers nous annoncent aussi leurs achats en ligne via internet, ce qui nous permet ensuite à nous de contrôler les entreprises qui fournissent ces restaurants en amont.
Et si une entreprise ne respecte pas cet engagement, qu'est-ce qui va se passer pour elle ?
Si un restaurant ne respecte pas les engagements, à ce moment-là, le label lui est retiré.
Et le label ira plus loin en 2014 par la mise en place d'une plateforme de distribution. Comment va-t-elle s'organiser ?
Voilà, alors la plateforme de distribution, c'est un projet parallèle mené par les coopératives agricoles genevoises. Et cette plateforme de distribution, elle a pour objectif finalement d'améliorer l'offre en produits Genève Région Terre Avenir pour les cuisiniers, à simplifier aussi les processus d'achat pour le cuisinier, puis à mettre en avant aussi les produits de saison au bon moment, de manière à ce que finalement permettre une adéquation optimale entre l'offre et la demande.
Alexandre de Montmolin, est-ce que vous pensez que c'est un retour en arrière de vouloir consommer des produits du terroir ?
Moi, je ne le pense pas. Il y a plein de bonnes raisons qui font que consommer local est intéressant, d'abord pour l'environnement, et puis aussi c'est bon pour l'économie locale, et puis c'est surtout un signe de motivation, une motivation de plus, je dirais, pour nos agriculteurs, et une source de satisfaction de savoir que leurs produits, le consommateur est informé de qui a produit la denrée et puis de savoir que le consommateur est satisfait de pouvoir consommer des produits qui proviennent de la commune voisine, par exemple.
Et de savoir son origine.
Et voilà, absolument.
Brigitte Foran, que pensez-vous des produits du terroir ?
Alors, Helvète Café privilégie les produits du terroir. Nous privilégions les produits bio préférence, mais aussi les produits locaux, d'une façon générale. Donc, nous travaillons pour avoir justement les produits GRTA. Nous mettons en place, nous mettons en place cela. Notre carte de vin, par exemple, ne comporte que des vins locaux, des vins bio d'ailleurs. Donc, Genevois et puis un Vaudois. Donc tous sont vraiment excellents et je pense que c'est une très bonne chose de privilégier les produits locaux quand on le peut et de préférence bio, mais si les autres produits sont bien travaillés également, nous sommes tout à fait vraiment dans cette direction-là également.
Mais pour revenir au vin, vous offrez que des vins, donc Genevois. Vous n'avez pas envie de faire découvrir...
Genevois, un Vaudois, sinon que des Genevois.
Que des Genevois. Ouais. Vous n'avez pas envie de faire découvrir à... Alors, clients, peut-être d'autres vins chiliens, espagnols.
Alors, pour l'instant, écoutez, nous pensons que nous avons des très bons vins locaux et donc nous avons pris ce choix de les proposer. Nos clients sont ravis. Les premières Les premiers retours sont très bons et je pense que c'est une très bonne chose.
Et dans les produits du terroir, nous avons aussi le cardon, Madame Bussy.
Oui, le cardon à la moelle. Pour Noël, je pense que c'est un incontournable à Genève. Et ben moi aussi, je prends des produits locaux, absolument tellement locaux qu'il me suffit de faire 5 minutes d'aller au marché de la Plaine du Loup à Lully, chez Muriel. Elle me garde les cardons chaque année. Là, j'ai un atelier qui va avoir lieu. L'argenté épineux AOC de Plan-les-Ouates. On dit de Plain-Palais, mais là, il est de Plan-les-Ouates.
Et ça prend combien de temps de faire ce plat?
Alors, il faut quand même qu'il passe 20 minutes au four. Mais autrement, la préparation est relativement courte et simple. Il faut assez peu de choses pour la faire. Donc, chez Muriel, vous allez trouver en sachet sous vide des cardons crus. Et il faut prendre 1 kilo à peu près pour 6 personnes. Donc, on fait chauffer de l'eau avec fouetter dedans de la farine, du lait et un peu de sel. Ébullition, on les cuit 20 minutes, pas plus. Hein, il faut qu'ils restent croquants. Ensuite, bien égoutter aussi pour pas qu'ils rentrent de l'eau ensuite. On les met dans son plat à gratin. On garde bien précieusement l'eau de cuisson parce que comme ça, on va la faire réduire un petit peu en mettant des œufs à moelle dedans. On en profite. Comme ça, tous les goûts restent ensemble. Et avec cette eau, on fera un roux, c'est-à-dire une petite béchamel fine, pas trop copieuse. Hein. Donc, on mouille avec le bouillon un roux. On laisse épaissir. Ensuite, on nappe ces cardons. De nouveau, pas trop. Et on passe un petit peu au four en mettant la moelle qui s'est détachée de l'os sur chaque part. Donc, un os, une petite moelle par personne. Et on dépose ça régulièrement sur le plat en pensant qu'en servant, on prendra un bout de moelle pour chacun.
Et juste avant que ça passe au four, ça prend combien de temps de préparation?
Alors, avant que ça passe au four, il y a donc ce petit quart d'heure de cuisson. La préparation, elle est, je dirais, 20 minutes plus 20 minutes. 40, il faut quand même une heure.
Il faut quand même une heure pour se faire à manger. Ouais.
Voilà, c'est un plat de fête. Là, on s'y prend. On met aussi du cœur. On ne peut pas faire en 5 minutes quelque chose qui n'a pas d'âme. Enfin, si, peut-être, après tout.
On continue la discussion après Quincy Jones. Vous avez oublié?
Radio Cité Genève, 92.2 FM.
Trip à la Neuchâteloise, Bircher Musli, Humble Chevalier à la Genevoise, Apple Strudel, certains plats ne changent pas et pourtant notre alimentation est en pleine modification. Mathilde Bussy, curieuse culinaire, et Brigitte Foran, fondatrice d'Elveg Café, vous m'accompagnez aujourd'hui dans ce 12-13. Et en fait, dans l'alimentation d'aujourd'hui, il y a un peu des problèmes, non? Au niveau de... Elle est peut-être un peu trop grasse.
Oui, il y a des...
Madame Foran.
Oui, effectivement, les problèmes de santé, on les voit tous les jours. Hein, de plus en plus de gens ont des cancers, etc. Le rapport de l'OMS le dit clairement. Et là, je vous renvoie à un livre, à une étude qui a été faite, le rapport Campbell, donc, qui est une étude épidémiologique qui a été faite sur plusieurs continents et qui démontre très clairement l'impact d'une alimentation carnée sur les problèmes de santé et également l'impact de la consommation de laitage sur les cancers et sur un certain nombre de problèmes de santé. Donc ça, c'est l'étude Campbell, c'est un scientifique, c'est une étude épidémiologique, donc c'est quelque chose de très clair qui est maintenant reconnu par tout le monde.
Et en fait, vous privilégiez le bio, mais le bio, c'est plus cher.
Alors, si vous faites le compte, le bio, c'est plus cher, oui et non. Et surtout, si vous faites le compte par rapport à votre santé, combien de fois vous allez chez le médecin par an, combien de fois vous avez des problèmes de santé, entre une pomme bio et une pomme pas bio, ben, je crois qu'à la fin de l'année, vous y retrouvez.
Et puis, il y a un avantage, une pomme bio, on peut manger la peau.
Exactement, et toutes les vitamines se trouvent dans la peau.
Donc vous êtes aussi pour la cuisine, pour l'alimentation bio, Madame Bussy?
Presque exclusivement, oui. Bon, il y a des choses que je prends encore dans le commerce usuel et ordinaire, mais en principe, je m'y tiens, oui. Surtout pour les choses qu'on mange crues, parce que je pense que c'est ça l'évolution. On va revenir au brut, au croquant, au cru, au frais, les produits basiques. Le petit épeautre, non pas l'épeautre normal, parce qu'il paraît que justement il est modifié. C'est le petit épeautre qu'il faudrait consommer. Le quinoa et les choses non aromatisées aussi. Les yaourts aromatisés, on peut le faire soi-même, c'est moins cher. Et moins manger de viande aussi, c'est moins cher. Donc là, on s'y retrouve. Si on mange moins de viande et moins de choses compliquées qui sont déjà beaucoup trop chères. Si vous regardez le prix au kilo d'un plat préparé, c'est épouvantable. C'est juste 4 fois, 5 fois ce que vous auriez. Évidemment, les doses sont petites, donc le prix reste correct.
Voilà, surtout qu'économiquement, quand on se rend compte que pour faire un kilo de viande, il faut 9 kilos de céréales, c'est une véritable hérésie. Je veux dire, ça n'a pas de sens.
Le maïs, c'est pour les animaux.
90% du soja sur la terre est destiné au bétail.
Le soja aussi. Oui.
À côté de ça, vous avez quand même 1 milliard de gens qui meurent de faim. Donc, je veux dire, il y a un problème.
Et l'huile de palme.
Il y a un problème alimentaire qui arrive petit à petit et qui va nous tomber dessus.
C'est vrai.
Et dans la modification culinaire, on rencontre la cuisine moléculaire. Denis Martin est un spécialiste de la cuisine moléculaire et selon lui, la cuisine moléculaire n'a rien de bien spécial.
À l'époque, en 1988, Hervétiste s'était posé la question, pourquoi est-ce que l'on cuit un œuf à la coque 3 minutes ? Et en définitive, ce n'est pas une question de minutes, c'est une question de température de l'eau. Donc l'œuf coagule à 65 degrés et il faut 3 minutes pour que l'œuf arrive à 65 degrés. Donc si on laissait des œufs dans une casserole pendant 2 heures, à 65 degrés, ils seraient toujours à la coque. Donc en définitive, c'est juste, je dirais la cuisine moléculaire, c'est une suite de la cuisine. Après, le mot moléculaire, c'est quelque chose de très médiatique, c'était médiatisé. Mais pour moi, c'est la cuisine et nous travaillons aujourd'hui avec les outils que nous avons aujourd'hui dans nos cuisines en 2013. On ne travaille plus au feu de bois, on ne travaille plus au cuivre, heureusement. Les casseroles en cuivre, aujourd'hui, on sait que c'était très mauvais pour la santé, et voilà.
Est-ce que c'est un petit peu comme de la chimie, quand même?
Alors, tout le monde associe cuisine moléculaire chimie. Je vais vous dire pourquoi. En définitive, si vous cliquez sur Internet et vous faites cuisine moléculaire, vous allez tomber sur aucun nom de cuisinier, déjà. Vous allez tomber sur des vendeurs de kits pour faire des billes, pour faire des gélatines, des spaghettis de gelée d'un mètre de long. Ça, c'est juste de l'opportunisme. C'est pas la cuisine. Ça, c'est des gens qui sont pris ce biais, qui vendent des kits très chers et qui vendent des produits très chers. La cuisine moléculaire, c'est la cuisine. On travaille avec des poissons sauvages, on travaille avec des Saint-Jacques en coquille. Si vous faites de la cuisine moderne ou de la cuisine classique avec des poissons d'élevage, ça restera toujours un sous-produit. Donc, nous, on travaille des grands produits. Maintenant, le mot chimie. La cuisine, ça a toujours été chimie. Toutes sortes de cuisines. Du moment qu'on assaisonne, du moment qu'on rôtit, du moment qu'on transforme les textures, on fait la chimie. J'entends également souvent le mot « ouais, mais c'est déstructuré la cuisine moléculaire ». Je dis « ok, quand vous mangez une purée de pommes de terre, pourquoi ? Est-ce qu'on reconnaît la pomme de terre ? Quand on mange une mayonnaise, est-ce qu'on reconnaît l'œuf, l'huile et le vinaigre ? Non, toutes les cuisines sont déstructurées.
Mais vous utilisez quand même des produits un petit peu qui sont pas courants.
Alors aujourd'hui, on travaille par exemple avec du xanthane ou de l'agar-agar pour lier ou pour gélifier un produit. Donc c'est une algue naturelle. Donc c'est vraiment une algue. Avant, on gélifiait avec des feuilles de gélatine issues du cochon. Donc lorsqu'on fait en définitive un dessert, un bavarois, et qu'on lie avec du cochon, c'est pas très logique. Du reste, je me pose la la question, les musulmans, quand ils mangent des glaces sur les quais, qui ont été gélifiés avec la feuille de gélatine, je trouve ça un peu bizarre, vous voyez. Non, alors, justement, si vous venez dans mon restaurant et vous venez voir le laboratoire, vous allez voir qu'on n'a aucun produit, ce dont les gens pensent, pour faire justement des billes d'alginate, pour faire des trucs comme ça.
Est-ce que vous avez quand même de l'azote ?
De nouveau, l'azote, c'est souvent les gens associent cuisine moléculaire et azote. Nous, notre facture d'azote, elle est à peu près de 4000 francs par mois. Donc, si j'ai 4000 francs par mois d'azote, c'est pas pour faire de la fumée dans la salle à manger, vous voyez. C'est pour, par exemple, faire un glacé comme un sorbet. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que les molécules d'eau à moins 30 degrés restent en paillettes et à moins 196 degrés, donc moins 30 degrés, c'est la sorbetière, elles restent en paillettes et à moins 196 degrés, elles sont explosées par le froid, ce qui veut dire qu'on a un sorbet très crémeux. Nous, quand on travaille, on maîtrise les températures, donc on a des thermoplongeurs pour cuire des poissons à une température voulue, issue de la cuisine moléculaire, entre autres, c'est la basse température. Hein. C'est issu de la cuisine moléculaire, la basse température, comprendre les temps de cuisson. Alors, j'ai des vieux livres de cuisine encore avec lesquels je travaille de 1910. Si je regarde ces livres, aujourd'hui, ce qui me choque, c'est qu'il n'y a aucune température sur ces vieux livres. Et maintenant, tous les livres de cuisine moderne, c'est marqué « cuire à tant de degrés pendant tant de temps ». Pourquoi ? Parce que sur les fourneaux à bois à l'époque, il n'y avait pas de manomètre. Et maintenant, il y a d'autres appareils qui arrivent, des thermoplongeurs pour pouvoir des cuissons au degré près, la cuisson sous vide. Il y a plein de choses qui ont changé dans la cuisine aujourd'hui qui font que la cuisine évolue. Et je suis persuadé qu'en 2035, il y a des jeunes qui auront encore d'autres moyens pour faire la cuisine et ils ne vont pas faire la cuisine comme en 1910.
Donc vous faites de la cuisine, mais le prix est quand même plus cher que dans d'autres restaurants plus traditionnels.
Alors, non. Si on prend tous les restaurants gastronomiques, les prix varient, ils sont au-dessus de 200 ou près de 300 francs le menu, vous voyez. Si on prend un restaurant gastronomique, donc il faut comparer un restaurant gastronomique qui fait des menus à plus de 200 francs ou de plus de 250 francs avec ce que nous faisons. On ne va pas comparer ce que nous faisons avec un restaurant qui fait un menu à 30 francs, vous voyez.
Mathilde Bussy, Brigitte Foran, est-ce que l'une de vous deux a déjà goûté à la cuisine moléculaire ?
Oui, Brigitte, moi j'ai déjà eu l'occasion de goûter. Moi je trouve que c'est intéressant, c'est innovant. Mais ce qui est important, moi je dirais, c'est de faire une cuisine pour toute religion, comme il l'a dit, donc intercommunautaire, hein, donc sans gélatine de porc, etc. Mais aussi sans souffrance et surtout bonne pour la santé.
Et vous, madame Bussy ?
Oui, alors j'ai goûté une fois une sphère de melon sans melon. Bon, c'était rigolo. Ça explose dans la bouche, c'est curieux. Surtout la préparation, c'est assez spectaculaire. C'était dans à la Biennale d'art moderne de Saint-Étienne, bref. Mais j'ai adoré ce qu'il a dit, hein, Denis Martin. Là, Hervétis, pour moi, je bois ses paroles, c'est un chimiste. Il enseigne au Collège de France et il est médiatique, d'accord, mais il croit à ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Et la gastronomie moléculaire, il l'a engendré avec un physicien, un anglais. Donc la cuisine et l'Angleterre, on a toujours un petit peu tiqué, et donc, qui est aussi un physicien d'Oxford. Et c'était dans les années fin 80 déjà. Alors pour moi, la cuisine moléculaire, c'est un peu surréaliste. On a des fois, enfin, j'ai déjà vu de l'azote fumé qui sort des narines des gens. C'est rigolo. Est-ce que c'est bon ? Il paraît qu'on mange 35 plats. Ça doit être marrant, mais... Autrement, moi, je pense qu'elle est mauvaise pour la santé. Elle est mauvaise pour la santé. D'ailleurs, quand même des choses chimiques, des transformations chimiques qui sont pas acceptables. Je ne sais pas. Hein.
Bon, selon Denis Martin, justement, il n'a pas trop de chimie. C'est ce qu'il essaye de nous expliquer. Après, je ne sais pas. Vous avez déjà goûté de la cuisine moléculaire ?
Oui, oui.
Madame Foran ?
Oui, oui, tout à fait.
Vous en pensez quoi ?
Comme je vous ai dit, ça peut être intéressant, mais je pense qu'il faut recentrer le débat. Le plus important, c'est de faire de la cuisine avant tout qui puisse convenir à tout le monde.
Mais est-ce que la cuisine moléculaire, vous pensez qu'il y a de la chimie dedans ?
Alors... Ça, c'est peut-être difficile à savoir, mais d'une façon générale, puisqu'il y a quand même certains ingrédients qui sont utilisés, moi, je trouve qu'une cuisine donc, sans souffrance et puis bonne pour la santé. Alors bon, après, c'est vrai que le côté moléculaire...
Et vous, Madame Bussy ?
Eh bien, moi, je suis depuis un certain temps ce que fait Ferran Adrià, près de Barcelone, au bord de la mer. Et il a fermé son restaurant en 2012. Il avait comme une grande pharmacie pleine de choses, hein, pleine d'épices, pleine de produits chimiques. Et on l'a beaucoup, beaucoup critiqué. Et on lui a dit qu'il intoxiquait un petit peu quand même les gens. Bon, on mange pas tous les jours chez lui, c'est ça l'avantage. Et il a quand même fermé. Et là, il a pas encore réouvert. Il est en train de réétudier, je pense, pour l'année prochaine, une nouvelle formule. Je sais pas laquelle. Et tous ces chefs qui l'utilisent, à mon avis, il y a eu au départ des produits... peut-être pas très bon pour l'organisme, hein, je ne sais pas. Non, je ne sais pas non plus.
Louise Attaque, Amour.
Oh amour, mon père, et je ne sais pas comment. Oh amour, ma mère, et tous ses sentiments. Oh amour, mon frère et ma sœur, évidemment. Oh amour, serait-ce un jeu d'enfant à crier tout le temps. Oh amour de longue date qui s'étend, qui s'étend. Oh amour avec un grand A, c'est long, c'est long, c'est long. Et amour, mon amulette du couture excellent. Amour, serait-ce un jeu d'enfant à crier tout le temps. Amour, mon père, et je ne sais pas comment. Oh amour, ma mère, et tous ses sentiments. Oh amour, mon frère et ma sœur, évidemment. Oh amour, serait-ce un jeu d'enfant à crier. Oh amour, de longue date qui s'étend, qui s'étend. Oh amour, avec un grand A, c'est long, c'est long, c'est long. Et amour, mon amulette du couture excellent. Amour, serait-ce un jeu d'enfant à crier. Oh amour, la première fois amoureux sans plus jeune âge. La dernière fois, oh l'amour de ce doux, c'est pas si glisse, pas les parfois. Et amour serait un jeu d'enfant à crier. Amour, mon père, et je ne sais pas comment. Amour, ma mère, et tous ses sentiments. Amour, mon frère et ma sœur, évidemment. Amour serait un jeu d'enfant à crier tout le temps.
Le 12-13.
Lynn Mabillon.
12h55 et on aime parler de cuisine, il y a qu'à voir le nombre d'émissions télévisées sur ce thème. On aime manger aussi et nous avons appris hier que le guide Michelin 2014 a étoilé 110 restaurants. Dans ce 12-13, nous parlons de changements culinaires. Brigitte Foran, Mathilde Bussy, et si on parlait un petit peu de futur, est-ce que vous savez ce que c'est l'entomophagie ? Mesdames.
La consommation d'insectes.
Exactement, c'est la consommation d'insectes, une consommation interdite en Suisse et en Europe. Pourtant, ça pourrait bien être le repas du futur afin de combattre la faim dans le monde. Dans des pays du Nord, il y a des usines qui transforment les vers en farine. Les habitants du Ghana mangent des vers d'arbres et en font de l'huile. Au Congo, les habitants s'alimentent de criquets. Sommes-nous trop conditionnés au raffinement des aliments déjà préparés en Europe pour pouvoir consommer des insectes, Monsieur Champeau ?
Eh bien, je pense une chose qui est sûre, en Europe, nous mangeons déjà des insectes. Ça, c'est certain. Les gens ne le savent pas, mais nous mangeons 200 et 300 grammes d'insectes par année, sans le savoir. Vous avez parlé de vers de farine. Ces vers de farine, on les trouve que dans le pain. Vous imaginez si on commence à faire de l'entomophagie, c'est-à-dire qu'on va commencer à se nourrir d'insectes, ça va être une chose incroyable, mais vous allez lutter contre la déforestation, vous allez lutter pour l'eau, vous allez lutter contre la famine dans le monde. Des vers de farine, on peut en faire des millions d'élevages, il n'y a aucun souci. Le ver de farine, c'est 0 litre d'eau. 1 kilo de viande, 15 500 litres d'eau. Si vous faites aussi le ver de farine, ça se nourrit que de pain sec. Donc même dans votre pain, peut-être que vous mangez des vers de farine sans le savoir, puisqu'ils sont broyés et on ne les voit pas. Si vous allez dans un centre commercial, par exemple, acheter de la confiture, eh ben, vous pensez bien que les fabricants, ça m'étonne qu'ils ouvrent la mûre ou la framboise pour voir s'il y a un ver à l'intérieur. Pire encore, les noisettes, les châtaignes. Le problème, c'est sûrement le mot « insecte ». Qui dérange énormément. Pour moi, ça dérange énormément et la loi, à l'heure actuelle, elle devient de plus en plus floue. La consommation d'insectes à travers l'Europe est interdite, que ça soit en Suisse ou que ça soit en Europe. Les insectes, si on dit par exemple, on va commencer à manger des insectes, ça sera jamais sous forme de l'insecte. Vous le verrez jamais, l'insecte. Jamais. La seule chose que vous allez voir, c'est de la poudre. Mais de la poudre d'insecte, c'est incroyable. C'est 6 fois plus protéiné que dans la viande animale. Vous imaginez, je parle toujours du bœuf. Pensez bien que l'association que nous avons créée, qui est l'association Grimiam, eh ben, cette association-là lutte contre la déforestation. Pourquoi ? Parce que le 30% des terres émergées à l'heure actuelle, je dis bien le 30%, madame, c'est que pour le bétail et le fourrage. En 2050, on dit qu'il y aura 10 milliards de personnes. Je ne sais pas où on va prendre la surface, ça devient une catastrophe. On est en train d'aller contre un mur.
Et Monsieur Champeau, que pouvons-nous faire pour que la consommation d'insectes entre dans les mœurs ?
Ben, à l'heure actuelle, il n'y en a qu'une. C'est triste de dire, c'est d'aider l'association Grimiam, c'est tout. Parce qu'avec l'association Grimiam, on va commencer à avoir chercher des finances, parce que cette association, elle a commencé il y a que 2 mois hein, seulement. Et on a une chance incroyable, c'est qu'on est aidé par la FAO maintenant. Alors, la seule chose qui nous reste, c'est de trouver des financements, faire nos propres élevages en Suisse, pas à l'étranger, les faire en Suisse, ces élevages, et réduire ces élevages en poudre. Et par la suite, on peut très bien faire des barres énergétiques, des biscuits, du chocolat à base d'insectes, il n'y a aucun souci. Vous savez vous très bien que le colorant E120, c'est des insectes, c'est des cochenilles. On le sait, on en mange des ans, mais les filles, elles les mettent dans le rouge à lèvres et tout ça, on le sait ça. Mais regardez le cas de ces pauvres gens, ces pauvres Philippins, ces femmes et ces enfants, hein, qui n'ont peut-être que du riz. Vous ne croyez pas qu'ils seraient contents que depuis un avion, on lance des petits sachets, grandeur à peine plus gros que ces sachets de sucre qu'on vend dans les restaurants, et que ce soit de la farine d'insectes, ce serait une véritable merveille. Ces enfants ou ces adultes pourraient saupoudrer leur riz et ils auraient assez de vitamine B1, B2 et surtout cette fameuse niacine, la PP, qui est la croissance des enfants. Et il y aurait aussi le zinc, le fer, le calcium. Ce serait une véritable merveille. Et les insectes, vous savez ce qui vous amène ? Le polymère. Le polymère, c'est l'exosquelette des crustacés et des insectes. Et ils ont remarqué, par exemple, dans certaines ethnies en Chine, en mangeant des insectes comme cette fameuse fourmi, eh ben, tout simplement, ils avaient très peu et rarement des rhumatismes et de l'arthrose grâce au polymère. Il y a énormément de choses dans les insectes. C'est extraordinaire.
Brigitte Fauran, que pensez-vous de ce témoignage ?
Oui, alors pourquoi parle-t-on d'entomophagie ? Pourquoi y a-t-il maintenant une étude pour faire des protéines synthétiques ? Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a un véritable problème alimentaire sur Terre, parce que d'ici 40 ans, nous serons tous végétariens, ou sinon, il sera impossible de toute façon de produire de la viande pour tout le monde. D'ailleurs, je rappelle que Einstein avait bien dit « le monde sera végane ou ne sera plus ».
Madame Bussy, que pensez-vous ?
Des insectes, oui, des insectes. Source de protéines indéniable, ça je veux bien essayer. Mais pour moi, ce serait dans un muesli bien caché, parce que bon, je sais qu'en Thaïlande, ce sont des friandises. Et voilà, il faut que ce soit mangé avec plaisir. Et puis c'est vrai qu'à notre insu, on en avale 500 grammes par an. Comme il a expliqué, c'était très très bien.
Oui. Donc tout au long de cette émission, nous avons parlé de changement culinaire. Donc on a vu qu'elle était plus légère, donc nous consommons des choses plus légères, mais apparemment trop de viande, trop salée. On n'a même pas parlé du lait, qui selon une étude d'Harvard donnerait apparemment des cancers. Mais j'ai tout de même l'impression qu'on mange toujours pareil. En fait, notre alimentation n'a pas beaucoup changé, en fin de compte.
On a des repères et on a nos parents qui ont de leurs parents. Bref, c'est quand même difficile de changer les habitudes. Là, je viens de le faire, moi, depuis le mois de juillet, changer mes habitudes drastiquement. J'essaye de prendre des aliments qui sont pas glycémiants. Enfin, je fais tout un tas de recherches. J'écoute une diététicienne. Je me renseigne. Mais c'est un effort. Je dis pas surhumain, mais c'est un gros effort. Et en plus, l'entourage doit suivre. Il ne comprend pas toujours, n'aime pas toujours ce que je fais. Voilà. Donc, les changements, ils sont durs à faire, c'est vrai.
Surtout au niveau des traditions, je pense par exemple à la Saint-Martin. Je ne sais pas si vous connaissez la Saint-Martin.
Oui, bien sûr.
Donc c'est presque 13 plats de cochon dans le Jura. C'est vraiment une tradition qui est vraiment presque ancestrale. Elle existe depuis longtemps et de plus en plus, elle est de plus en plus célébrée, de plus en plus aimée. Que pensez-vous de cela ? Est-ce que vous pensez vraiment qu'on pourra faire changer des traditions comme celle-là ?
Alors, au nom des traditions, il y a des choses qui sont faites et qui ne devraient pas se faire. Quand on parle de tradition de cet ordre, ça devient de l'obscurantisme. Et Voilà, donc il y a des choses qu'il faut... Quand toutes les sociétés qui évoluent, justement, parfois changent leurs traditions qui ne sont plus bonnes.
Et qu'est-ce qui pourrait aider à faire changer ce genre de tradition de manger de la viande? Autant de viande, selon vous, Madame Foran?
Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons d'abord de santé, il y a des raisons de morale, il y a des raisons écologiques.
Il y a des raisons, mais comment on pourrait le faire, en fait?
Ben simplement en allant tout simplement vers le végétal qui ne pose pas tout.
Mais comment on pourrait faire justement pour que les gens puissent changer leurs mœurs, le fait de commencer à manger plus peut-être vegan? Est-ce qu'il faudrait sensibiliser le public?
Ah oui, alors effectivement, il existe quand même tout un lobby de la viande. Il faut quand même être conscient que c'est un pan de l'économie énorme et qui n'a pas intérêt à faire changer les habitudes des gens. Mais c'est vrai que c'est un véritable problème de société.
J'ai une dernière question pour vous, Madame Foran. Est-ce que vos prix que vous faites dans Elveg Café sont plus chers que dans des restaurants plus traditionnels?
Alors, par rapport à d'autres restaurants, gourmets, non. D'ailleurs, on nous l'a clairement dit, les prix ne sont pas plus chers. C'est vrai que peut-être par rapport à des restaurants de burgers dont je ne citerai pas le nom, oui.
Et pour vous, Mathilde Bussy, vous avez créé Saperli Popote, c'est
oui,
bien cela?
Oui, c'est ça. Saperli Popote, donc la popote, la cuisine. C'était un petit mot que je disais souvent à la maison, Saperli Popette, donc la popote. Oui, parce que, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est donner aux enfants l'idée, la façon de manger, le goûter. Je leur fais tout sentir. Mes enfants, j'aurais même cassé les pieds, allez, sans ça. Et maintenant, ils le font d'eux-mêmes. Donc là, je pense que les enfants, entre 8 et 12 ans, sont un terrain fabuleux. Hier soir, j'ai fait un atelier avec eux. Ils étaient 9. On a fait une quiche verte, donc que des légumes, avec même dans la pâte, on a broyé des herbes, on les a mis dans la farine, on a fait une pâte un peu verte et tout. Mais ils étaient fiers. Évidemment, ils ne la mangent pas avec nous. Dans l'atelier, on n'y touche pas. C'est pour papa, c'est pour maman. Et on a pris des photos. Bref, c'est vraiment... moi, les enfants, ça parle hippopote, je trouve que ça leur va et puis ils aiment bien. Et je vais continuer comme ça.
Donc, les Genevois sont friands de cours de cuisine.
Ah oui, c'est incroyable. Je reçois des téléphones pour... vous ne pouvez pas organiser pour une société. Oh bien, j'aimerais pour ma fille. Là, samedi, je vais faire un anniversaire pour une petite fille et ses copines. Donc, oui, c'est tout autour de la cuisine parce que c'est important. On mange 2-3 fois par jour. Ça fait 800 fois par an. Donc, on a énormément de temps à consacrer à ça. Et c'est un job à mi-temps.
13h05, on est un petit peu en retard. Mathilde Bussy, curieuse culinaire, et Brigitte Foran, fondatrice d'Elveg et Café. Merci à vous deux d'avoir participé à ce 12-13 aujourd'hui.
Merci.
Le 12-13 de demain.
Merci.
Le 12-13 de demain est présenté par Gilles Soulac. Il reçoit Béatrice Cortellini et Élise Jackson Maroni et aussi Catherine Meyer-Pfister, directrice de l'ONU Femmes Suisse. Mercredi 4 décembre, nous parlerons de la place de l'apparence dans notre société. Je vous laisse et vous souhaite à tous une belle journée et je vous laisse avec Benabar, le dîner.
Je veux pas y aller à ce dîner, j'ai pas le moral, je suis fatigué. Ils nous en voudront pas, allez, on n'y va pas. En plus, faut que je fasse un régime, ma chemise me boudine. J'ai l'air d'une chipolata, je peux pas sortir comme ça. Ça n'a rien à voir, je les aime bien tes amis. Mais je veux pas les voir, parce que j'ai pas envie. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. On n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. Je suis pas d'humeur, tout me déprime. Et il se trouve que par hasard, il y a un super bon film à la télé ce soir.